et France 24 présentent
Mardi politique.
C'est l'heure de Mardi politique sur France 24 et RFI. Bonsoir Frédéric Rivière.
Bonsoir Rosine, bonsoir à tous.
Et ensemble, nous recevons Marlène Schiappa. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes ministre déléguée chargée de la citoyenneté et vous êtes tête de liste La République En Marche à Paris pour les régionales. Alors la droite se déchire, on le voit aujourd'hui, après le soutien apporté par la majorité à Renaud Muselier, le président sortant de la région PACA, donc qui est sous la menace constante et permanente du Rassemblement national dans sa région. Alors Renaud Muselier veut s'assurer peut-être la victoire en faisant, alors il dit qu'il n'y a pas d'accord, un accord avec La République En Marche et le gouvernement et la liste qui s'est retirée. Donc finalement, c'est Emmanuel Macron divise la droite en quelque sorte. Renaud Muselier, lui, s'assure peut-être une victoire. C'est un échange de bons procédés, j'ai envie de dire. C'est de la politique classique, non ?
Alors il y a plusieurs choses et je pense qu'il y a plusieurs niveaux d'engagement dans ce qui se passe en ce moment dans la région PACA. D'abord, vous l'avez très justement rappelé, il y a un enjeu, il y a un danger grave du Rassemblement national aux précédentes élections régionales. D'ailleurs, Christophe Castaner avait pris la décision de retirer sa liste au nom du Parti Socialiste, quitte à ne pas
entre
être élu
tours,
lui-même,
oui.
Absolument entre les deux tours, pour préserver la région du Rassemblement national. Ça, c'est le premier enjeu et le plus fort. Et ensuite, si je rentre un peu dans la politique politicienne, effectivement, oui, il y a maintenant deux droites irréconciliables, avec d'un côté une droite qui est prête à travailler avec le président de la République, dont certains, d'ailleurs, la plupart de ces grands leaders ont déjà rejoint Emmanuel Macron en 2016-2017. Je pense bien sûr à Édouard Philippe, à Bruno Le Maire, Gérald Darmanin et beaucoup d'autres.
Donc l'étau se resserre.
Et ensuite, vous avez en face une droite qui, elle, est prête à s'allier avec Debout la France, avec des souverainistes, avec le Rassemblement national, qui, elle, c'est la droite qui s'est alliée avec, par exemple, Nicolas Dupont-Aignan dans d'autres régions.
Votre parti, La République En Marche, n'était pas en mesure, seul, de constituer une liste et de faire barrage au Rassemblement national ?
Je crois qu'il y a une liste qui a été constituée en région PACA sous l'égide de Sophie Cluzel,
oui, qui
est secrétaire d'État chargée des personnes handicapées, oui. Qui a décidé de se retirer au profit du sortant qui était mieux positionné. Je crois que les élections régionales, elles montrent vraiment des spécificités politiques dans différentes régions. En Ile-de-France, par exemple, où je suis candidate, la situation est tout à fait différente et il n'y a pas ce risque Rassemblement national identifié comme c'est le cas en PACA.
Mais est-ce que le seul but de la manœuvre, c'est en effet d'éviter une victoire du Rassemblement national ou est-ce que c'est aussi de fracturer de nouveau la droite à un an de l'élection présidentielle. On se souvient qu'Emmanuel Macron l'avait fait juste avant 2017, et ensuite lorsqu'il est arrivé au pouvoir. Est-ce qu'il n'y a pas là, à nouveau, cette intention ?
Non, moi je dirais que la fracture de la droite, si vous voulez, en région PACA et du coup au niveau national, c'est une conséquence. C'est Christian Jacob, lui-même, le patron des Républicains, qui a décidé d'acter cette conséquence, puisque c'est lui-même qui a dit qu'il voulait du coup envisager de retirer l'investiture de son propre parti à Renaud Muselier. Chacun est maître de ses décisions et dans les conséquences, eh bien, c'est le parti Les Républicains qui lui-même se fracture tout seul.
Mais c'est aussi une façon pour Emmanuel Macron, en tout cas pour la majorité, de cacher un petit peu la misère sur les régionales, si tant est qu'il y ait des membres de La République En Marche sur cette liste, puisque Renaud Muselier a l'air quand même sous la pression de son propre parti, est en train de reculer à grands pas, non ?
Alors honnêtement, moi je ne suis
oui, vous
pas,
n'êtes pas dans
engagée
la tambouille
en PACA,
politique,
voilà, je laisse à Renaud Muselier le soin de s'exprimer par rapport à ça, mais le début de votre question, excusez-moi.
C'était aussi une façon de cacher la misère sur les résultats de la République.
Je sais pas pourquoi je vous relance sur ce début de question.
Mais oui,
non, pas du tout, parce que c'est une question pertinente, pour être très honnête, on est un jeune parti, et donc c'est vrai, je vous mentirais en vous disant oui, on est implanté partout et on est donné gagnant, c'est pas vrai, on est des challengers dans toutes les régions, il n'y a pas une région où nous soyons donnés gagnant. Et donc, on est un jeune parti qui est en train de s'implanter, qui n'a pas encore d'élus sortants, puisque quand il y avait les dernières élections régionales, La République En Marche n'existait pas. Il y a eu cette recomposition du paysage politique. Vous avez maintenant l'AREM avec le MoDem, Agir, Territoire de Progrès. À Paris, nous partons tous unis ensemble sous la même bannière avec Laurent Saint-Martin pour l'Île-de-France.
Alors, justement, vous êtes donc tête de liste pour les régionales. Donc, l'actualité aujourd'hui à Paris aussi, c'est dans le 19e, un arrondissement et un quartier de Paris qui est gangréné par le trafic de crack. On a tiré au mortier sur les trafiquants. On dit que ce sont des habitants excédés, l'enquête le dira. Mais n'est-ce pas une preuve terrible, Marlène Schiappa, d'impuissance des autorités et de la police qui n'arrivent pas à démanteler ces réseaux?
Au contraire, vous savez, les réseaux de deal, de drogue, ils existent dans ces quartiers depuis très longtemps. Moi, j'ai grandi en grande partie à Belleville et dans la Cité Rouge, qui n'est pas très loin des événements, de l'endroit où se sont produits ces événements. Et vous savez que la priorité numéro 1 du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, c'est le démantèlement des trafics de drogue. Et c'est le harcèlement des points de deal. Et il y avait ce qu'on appelle la colline du crack, qui n'était pas loin, pardon pour l'expression, mais c'est ainsi que les habitants l'appellent, et contre laquelle les forces de l'ordre mènent une action résolue pour la démanteler. Donc on voit qu'il y a des conséquences.
Mais elle s'est déplacée aujourd'hui, elle est à Stalingrad.
Exactement. Il y a des conséquences ensuite avec un éparpillement de cette activité de deal de crack qui ne s'arrête pas sur une seule interpellation des forces de l'ordre. Donc les forces de l'ordre mènent un travail difficile de harcèlement des points de deal pour les démanteler, sont aux côtés des habitants. Avec la loi pour la sécurité globale, nous avons permis enfin la création d'une police municipale à Paris qui va pouvoir prendre toute sa part pour assurer la sécurité des Parisiennes et des Parisiens qui, jusque-là, étaient assurés seulement par les services de l'État.
Si vous vous mettez, Marlène Schiappa, dans la peau d'une femme, peut-être en particulier, qui habite au cœur de ce quartier, dans lequel il y a des tensions extrêmement importantes, depuis bien longtemps, là, il y a un regain d'actualité, mais ça fait bien longtemps, des gens qui vivent vraiment des situations extraordinairement difficiles. Ils le disent, ils sont à bout de nerfs. Que pensez-vous que cette... Ils ont du mal à circuler, difficile pour les femmes, impossible d'aller dans les parcs, dans les jardins avec les enfants, etc. Si vous êtes dans la peau de cette femme, qu'est-ce que vous faites de votre bulletin de vote, peut-être pas tant au régional, mais en 2022 ?
Et d'abord, vous dire que ce n'est pas très difficile pour moi de me mettre dans la peau d'une femme du 19e arrondissement, dans la mesure où c'est là que j'ai grandi, c'est là que j'ai passé mon adolescence.
Sans vouloir vous faire offense, puisque vous êtes encore très jeune, mais enfin, la situation n'était sans doute pas la même.
La situation n'était pas tout à fait la même, elle n'était pas non plus foncièrement différente. Moi, j'ai grandi dans la cité qui s'appelle la Cité Rouge, où on grandit des personnes qui sont les frères Kouachi, par exemple, si on situe qui c'est, et quel type d'adolescence vous imaginez qu'on peut avoir dans le 19e arrondissement. Quand on regarde pour sortir de chez soi, vous le disiez vous-même, c'est pas forcément il y a si longtemps que ça. Je reste une Parisienne, moi je viens des milieux populaires, j'ai grandi dans des cités, j'ai pas fait l'ENA, j'ai pas de patrimoine, j'ai pas d'amis milliardaires, donc je connais parfaitement ces situations-là, et nous sommes justement là pour régler ces problèmes. Et si vous voulez, toutes les personnes qui pendant des années ont dit que les questions de sécurité, c'était des thèmes de droite, et qu'il fallait que quand on est de gauche, on est pur, on ne s'occupe pas de la sécurité, ce sont des personnes qui ont abandonné ces quartiers populaires. Donc pour vous répondre très clairement, le but de vote, si j'habitais encore, ce n'est plus le cas, j'habite toujours à Paris, mais plus dans ce quartier-là, si j'habitais encore dans ce quartier, mon bulletin de vote, je le mettrais pour un gouvernement qui a agi, et donc avec Emmanuel Macron et avec Gérald Darmanin qui
mais
a agi pour la sécurité.
La personne qui vit ces difficultés, si elle se dit finalement, moi je les vis toujours, et il y a un parti qui n'a encore jamais exercé les responsabilités, il y en a un, pourquoi je ne le tenterais pas? Vous voyez de quoi je parle? Est-ce que vous pouvez comprendre ce réflexe éventuel?
Mais moi, je ne suis pas sociologue, il ne m'appartient pas d'aller
analyser... Non, mais enfin, c'est aussi de la politique, ça.
Bien sûr, il ne m'appartient pas d'aller analyser les envies des uns et des autres, il m'appartient de convaincre, et de convaincre en démontrant par l'action. L'action et les résultats concrets de ce gouvernement, c'est d'abord un budget en hausse comme jamais pour la sécurité. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'au Sénat, l'opposition Les Républicains a indiqué voter pour la première fois le budget du gouvernement pour la sécurité grâce à cette hausse historique. C'est 10 000 policiers en plus recrutés pendant le quinquennat. C'est la première
plus
fois
de bleu dans les rues, comme disait Emmanuel
Macron. Exactement. Ouais. C'est la première fois depuis des décennies on baissait les effectifs de police, les mêmes qui aujourd'hui se désolent des effets de ce qu'ils ont eux-mêmes causé. Eh bien, pour la première fois, on les rehausse avec ces recrutements de policiers. Il y a plus d'argent pour la vidéoprotection. J'étais à la gare Saint-Lazare tout à l'heure et j'ai pu venir saluer les policiers pour leur excellente action et excellente coordination qui, entre la vidéoprotection, les brigades de transport, la SUJ, la police en patrouille, en civil, ont permis de résoudre encore de nombreuses affaires cette semaine.
Alors, Frédéric, vous posez la question, si vous étiez une habitante de ce quartier du 19e, vous voteriez pour qui? Moi, je vous demande, si vous étiez élue à la tête de la région, que feriez-vous, par exemple, pour ces problèmes de drogue? Alors, on a pris l'exemple, bien sûr, parce qu'il y a eu ce tir de mortier dans le 19e. Vous faites quoi concrètement pour dans cette situation?
Je pense que c'est une très bonne question que vous posez, parce qu'on voit qu'à l'heure actuelle, il y a un échelon qui est absent de ces enjeux, et cet échelon, c'est la région Île-de-France. 80% des phénomènes de violence entre bandes de jeunes sont concentrés dans le pays, dans la région Île-de-France. Les compétences de la région, c'est notamment la gestion des transports et la gestion des lycées. Et on voit bien qu'aux abords des lycées, comme aux abords des transports, il y a des enjeux de violence spécifiques. Et donc Laurent Saint-Martin, qui est notre candidat pour devenir président de la région Île-de-France, propose de créer une forme de police régionale qui vienne en complément des dispositifs existants de l'État, aux abords des transports, aux abords des lycées, pour croiser ces problématiques et pour y répondre. On était ensemble à Beaugrenelle, on parle du 19e arrondissement, on a raison d'en parler. Il y a des phénomènes de violence et de bandes graves aussi dans d'autres quartiers, notamment à Beaugrenelle dans le 15e. Avec Laurent Saint-Martin, nous y étions samedi, à la rencontre des habitants, qui nous disaient justement à quel point ils avaient pu avoir des contacts des commissaires de police, des points qui venaient, qui luttaient contre le trafic de drogue, mais à quel point ces jeunes, collégiens, lycéens, étaient parfois livrés à eux-mêmes et que cet échelon était véritablement manquant à l'heure actuelle.
Donc la violence dans la rue, la drogue, le phénomène aussi des manifestations, où dans le fond aujourd'hui à Paris, dès qu'il y a une manifestation, elle est soumise à la violence. L'attaque contre la manif de la CGT a choqué beaucoup de monde. Qui sont les casseurs? Est-ce que c'est l'extrême droite, l'extrême gauche, les deux en général, ou les anarchistes? Est-ce que l'enquête avance pour savoir qui est derrière ces masques, derrière ces masques?
L'enquête avance et le procureur de la République communiquera quand il le souhaitera. Mais ce que je peux vous dire sur ces manifestations, c'est qu'effectivement, on observe que les revendications sont de moins en moins claires parce qu'elles ont de moins en moins d'espace pour s'exprimer et qu'à la place, on a de moins en moins de monde, mais des gens de plus en plus violents. Alors, des black blocs à la fois, des gens probablement d'extrême droite, probablement des gens d'extrême gauche aussi. On a vu des tags contre la police, on a vu des policiers, un pompier être frappé très grièvement.
Donc les institutions en fait,
exactement.
La CGT en
fait partie. Voilà exactement ce que j'allais dire, même la CGT qui est un syndicat et qui est très à gauche et qui est un opposant, je ne sais pas si on peut le dire comme ça, ça veut se définir, mais en tout cas qui n'est pas particulièrement, qui ne travaille pas particulièrement en soutien du gouvernement, même la CGT se fait menacer et traiter, je cite, de collabos. Et c'est évidemment condamnable, tout autant que les violences contre les policiers, contre les pompiers. On ne peut plus accepter que les manifestations soient des théâtres de violences pareilles. Ça a été le cas pendant plus d'un an.
Mais à chaque fois, on dit ça, et le résultat et les images sont les mêmes.
Alors, il y a des patrouilles qui ont été déployées. Moi, je veux dire, ce que j'observe, c'est qu'il y a aussi de moins en moins de services d'ordre dans les manifestations. Ouais. Peut-être parce qu'elles sont de moins en moins organisées par des corps intermédiaires, par des syndicats. C'est ce qu'on a commencé à voir avec les Gilets jaunes. Quand il y a des manifestations qui sont organisées, qui ne dérapent pas, il y a eu un immense rassemblement en soutien à la mémoire de Mme Sarah Halimi. Je n'ai pas vu de violence en marge de cette manifestation. Je crois qu'il y a une responsabilité des forces de l'ordre et ils la remplissent formidablement au péril parfois de leur vie. Il y a aussi une responsabilité des organisateurs des manifestations de gérer le service d'ordre de la manifestation comme cela se fait depuis des générations.
Je voudrais qu'on évoque, Marlène Schiappa, la situation des EHPAD, puisque vous avez sans doute vu que la défenseure des droits, Claire Hédon, a publié aujourd'hui un rapport qui souligne que le droit à une vie privée et familiale a été davantage entravé au cours de la crise sanitaire pour les résidents d'EHPAD que pour le reste de la population. Il y a beaucoup d'exemples qui sont cités dans ce rapport, des tests de dépistage réalisés sans consentement, maintien de restrictions de sortie pendant les périodes de confinement, interdiction des visites, y compris pour des personnes vaccinées. Des heures de couchage invraisemblables, des 18 heures pour des questions de fonctionnement interne. C'est un tableau qui fait très mal quand on le lit, quand on l'entend, parce que finalement, prendre soin de ses aînés, c'est aussi l'honneur d'une société, non? Et est-ce que là, il n'y a pas une faillite?
Vous avez raison, c'est un tableau qui fait mal, mais je pense qu'il faut l'entendre et que c'est nécessaire. Mmh. Et donc ce rapport, je le trouve très précieux. J'ai reçu la semaine dernière le collectif Tenir ta main, qui est composé de personnes qui ont perdu un proche, souvent un parent, pendant la période de la pandémie, dans des conditions difficiles. Certains n'ont pas pu avoir l'autorisation d'aller rendre visite à leurs parents qui étaient en fin de vie et de leur dire adieu. Un des messieurs que j'ai reçu m'a dit que son père, qui est mort à l'hôpital, n'a pas pu recevoir les derniers sacrements et qu'on ne l'a appelé qu'une fois que son père était déjà décédé. Donc ce rapport, je crois que nous, le gouvernement, nous devons le regarder lucidement et en tirer tous les enseignements pour faire en sorte que tous les dysfonctionnements qui sont mentionnés soient analysés et ensuite, évidemment, ne se reproduisent plus. Je suis en train d'échanger avec Brigitte Bourguignon, qui est ma collègue chargée de ces questions, chargée de l'autonomie et de la défense des personnes âgées. Et évidemment, elle va apporter des réponses pour faire en sorte que dans les EHPAD, la situation soit vraiment plus humaine vis-à-vis des personnes qui vivent cette double peine, quelque part, la pandémie et l'isolement vis-à-vis de leur famille.
Peut-être une question, quelques questions en vrai, puisqu'on arrive à la fin de cette émission. Vous vouliez nous parler des Yézidis, puisque donc qui sont persécutés, et la France va prendre une initiative.
Exactement. Le président de la République s'était engagé à recueillir au moins 100 femmes Yézidis avec leurs enfants. Je rappelle que les Yézidis, c'est un peuple qui a vécu un génocide par Daesh, et beaucoup de femmes yézidis ont été réduites à l'esclavage sexuel. C'est d'ailleurs ce qui a conduit Nadia Mourad, qui est une femme yézidi, à recevoir ensuite le prix Nobel de la paix en 2018 pour son action pour la défense des yézidis. Et donc c'est l'honneur de la France que de les accueillir, mais je crée dans la semaine qui vient une task force avec l'ensemble des parties prenantes, des services de l'État, mais aussi des opérateurs comme l'OFI et d'autres, pour mieux améliorer le parcours d'intégration des femmes yézidis et notamment de leurs enfants. Parce qu'ils nous disent tous quel plaisir, quel honneur c'est pour eux d'être accueillis
en France.
Ils viennent d'Irak. Exactement, d'Irak, où sont les yézidis. Et ils viennent en France et ils ont un attachement à la France grâce à l'engagement du président de la République à leur côté. Parce que ce sont des gens qui ont combattu Daesh et qui ont été victimes de ce génocide. Donc cette task force, elle va avoir pour but de mieux travailler sur l'intégration des femmes yézidis et de leurs enfants, renforcer par exemple l'apprentissage du français, permettre d'accompagner leur scolarité et faire en sorte, à terme, s'ils le souhaitent, qu'ils puissent faire aussi la démarche de s'engager dans une démarche pour devenir des citoyens français.
Un petit mot peut-être sur l'écriture inclusive, un sujet qui déchaîne les passions. Le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, veut l'interdire à l'école. Est-ce que vous êtes sur cette ligne? Et quand on dit école, de quoi parle-t-on? Est-ce que ce sont les établissements scolaires au sens large ou est-ce que c'est uniquement l'enseignement primaire?
Pour être très honnête, je suis toujours un peu surprise par la passion autour des débats sur l'écriture inclusive.
Il y a des gens très intéressants qui s'intéressent au sujet. Vous le savez.
Oui, bien sûr.
Y compris l'Académie française qui a parlé de péril mortel.
Absolument, mais ça me voilà. Personnellement, je trouve dans les circulaires, le Premier ministre de l'époque, Édouard Philippe, avait demandé qu'on n'utilise pas l'écriture inclusive. Mais comme vous le savez, l'écriture inclusive, c'est autant les mots épicènes ou le toutes et tous, le fait de féminiser pour rendre les femmes visibles. Et cela, moi, j'y suis favorable. Mais c'est aussi le point médian. Et je conçois très bien que quand on apprend à lire ou quand on est dyslexique ou qu'on a des problèmes, des troubles de l'apprentissage, mettre des points médians dans tous les mots, ça ne facilite pas l'usage. Et donc, je comprends le sens de la volonté de Jean-Michel Blanquer.
Dans les universités, par exemple, où c'est extrêmement utilisé aujourd'hui, est-ce qu'il faut aussi encourager à y renoncer ou contraindre à y renoncer?
Il me semble que dans les universités, il y a une liberté d'enseigner, donc je ne suis pas sûre que la contrainte soit le plus efficace. Je pense que le débat sur cette question peut être plus utile, à mon avis.
Juste une petite question très courte.
En 10 secondes.
En 10 secondes. Ah, il reste 10 secondes.
Non, c'est 30, vrai que c'est. Comme je sais que vous êtes longue.
C'est d'accord.
Sympa. Bon, allez, c'est la fin. Je ne vous poserai pas ma question.
Non, sinon, on va déborder.
Heureusement pour vous, Marlène Schiappa.
Ah bon?
Non, mais c'est lui le maître des horloges.
Très bien.
Voilà, ici.
Au-dessus, il y a Emmanuel Macron.
Vous en connaissez un autre.
C'était très bien géré. Vous avez parfaitement raison.
Merci.
Merci à vous.
Merci beaucoup, Marlène Schiappa. Et merci à Charlotte Urien Tomaca et à Camille Néron d'avoir préparé cette émission. Et bien sûr, à toute l'équipe technique. Bonsoir Frédéric.
RFI, chez vous au quotidien.